Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Pendant nos dernières séances, nous avons parlé des diables, des anges, des magiciens, des magiciennes, des gens dont l'opéra se moque, les juges, les notaires. Pour ce mois de novembre, nous allons consacrer nos quatre séances au monde un peu différent, mais vous verrez qu'il n'est pas inintéressant. C'est la place des prostituées, des femmes entretenues dans l'opéra. La grande histoire, la mythologie, la grande littérature ont inspiré les librettistes avec une dominante de personnages épiques, jusqu'à la fin du XVIIIe en gros. Ils éprouvent de violentes passions, ne se comportent pas selon les règles d'une morale stricte, les dieux recourent aux moyens les plus incroyables pour arriver à leur fin, les magiciens préparent des philtres d'amour ou de mort, mais il s'agit d'un univers bien éloigné de celui des spectateurs. Passionné par ce qu'on n'appelait pas encore de la science-fiction. Et en plus, ceux qui étaient les spectateurs n'étaient pas marqués par une morale très très stricte, c'est un temps assez libertin. L'opéra romantique va choisir des héroïnes dont la vie est difficile parce que ce sont, qu'on le veuille ou non, des déclassées. Sont-elles à proprement parler des prostituées? Non, si on entend par là des femmes qui font le trottoir et ont des relations sexuelles monnayées avec des clients qui changent. Ce sont pour certaines des femmes entretenues ou qui l'ont été, et qui disposent de moyens leur assurant un train de vie plus ou moins fastueux. Mais elles peuvent être aussi beaucoup plus modestes, se contentant de séduire sans trop penser au lendemain ou acceptant d'être séduites, se trouvant parfois, malgré elles, embarquées dans des aventures qui finissent mal. Elles n'en ont cure, entendant privilégier leur liberté. Mais ce n'est pas dans l'air du temps. Ainsi, Madame Bovary s'empoisonne à l'arsenic et meurt dans d'horribles souffrances. La dame aux camélias meurt de la tuberculose, s'étant mise en règle avec l'Église. Julien Sorel sera exécuté, un homme du peuple, tandis que Madame de Rênal va mourir de consomption. Avec une splendide hypocrisie, on est rassuré, la morale bourgeoise est sauve. Entre nous, ça ne la rend pas plus respectable ni plus crédible, tant, je reprends le mot, l'hypocrisie est patente. Que leurs personnages soient inspirés par une personne ayant existé ou non, elles ont un destin commun, elles finissent mal, alors que leurs amants s'en tirent généralement bien, sauf pour quelques-uns que la justice rattrape, plus parce qu'ils ont troublé l'ordre établi qu'ils n'ont commis une infraction à proprement parler pénale. La philosophe et écrivaine Catherine Clément, qui s'est intéressée au sujet d'un point de vue sociologique, est formelle. Elle dit très justement « Les femmes sur la scène d'opéra chantent immuablement leur éternelle défaite. Jamais l'émotion n'est si poignante qu'au moment où la voix s'élève pour mourir. Regardez-les, ces héroïnes. Elles battent des ailes avec la voix, leurs bras se tordent. Les voici à terre, mortes. Celle qui incarne peut-être le mieux le destin le plus tragique, c'est Violetta, la Traviata, directement inspirée de la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, qui s'est appuyée sur l'histoire vraie de Rose Alphonsine Plessis, dite Marie Duplessis, qui l'aimait avant que Francesco Maria Piave ne rédige le livret pour l'opéra de Verdi créé en 1853. Le compositeur disait « C'est un sujet de notre temps ». Ce n'était pas innocent. En 1853, ce même Verdi entraînait alors une relation de concubinage avec la cantatrice Giuseppina Strepponi. Et c'est d'ailleurs avec elle qu'il avait assisté à l'adaptation théâtrale du roman lors d'un séjour parisien en 1852. Mais la Traviata, en italien la dévoyée, n'est pas une simple courtisane. C'est avant tout une pauvre pécheresse à laquelle Verdi apporte musicalement empathie et absolument. Qu'elle chante la liberté et le champagne, danse ou flirte, c'est surtout une amoureuse sacrifiée sur l'autel de la bienséance. Une fille que l'on n'épouse pas. Le père d'Alfredo, Giorgio Germont, garant de l'ordre social, saura le lui faire entendre et pire accepter. Chanté par les plus grandes divas, le rôle est difficile, montrant une femme sincère, désintéressée, passionnément amoureuse de l'homme auquel elle va renoncer. Parce que nous l'avons dit, le père d'Alfredo la convainc que c'est pour le bien de son fils et de sa famille. Nous écoutons le sublime Adio del Passato chanté par Prediende. À sa vie antérieure, elle est méprisée à tort par son ancien amant, qui va lui jeter des billets littéralement à la figure. Et puis, il y aura des retrouvailles et explications sur son lit de mort, avec un ultime espoir que leur amour sera possible, qu'elle va guérir. Nous entendons Maria Callas dans cet air absolument désespéré. Non amarrai, non dirmela, dirmela, amor mio, a sua più terribile, qui non mi trasso il Dio, qui non mi trasso il Dio. Dans un registre très différent, nous évoquerons Carmen. Le point de départ est un fait divers raconté par la comtesse Montiero, une prostituée andalouse et poignardée par son amant, un bandit de Malaga. Prosper Mérimée en fait une nouvelle, que Ludovic Halévy et Meillac reprendront pour en faire le livret de Carmen, l'opéra de Bizet, l'œuvre la plus jouée au monde dans toutes sortes de mises en scène. Elle séduit. Ici, Karine Dehaye dans L'amour est enfant de Bohème. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Mais finira sous les coups de Don José qu'elle n'aime plus. Carmen, lâche-moi, je t'adore. Si le poids pour t'appeler, je raterai ma vie. Tout ce que tu voudras, tu m'entends, tu m'entends, toi. Ne me quittez pas, Carmen. Carmen ne veut aucun compromis. On l'avait averti que sa vie était en danger, mais elle est une femme libre au prix de sa vie. Don José sera arrêté. Aussi bien dans la nouvelle que dans l'opéra, elle provoque, elle séduit, elle se moque et toute son fade à côté d'elle. Y compris Micaela qui a le rôle triste d'une sorte de conscience pour Don José, auquel elle apporte des nouvelles de sa mère qui rêvait de les voir mariés, tandis que son fils aurait fait une glorieuse carrière militaire. Nous écoutons Montserrat Caballé dans le grand air de Micaela.
Sans trembler, j'ai l'accompli.
on a pitié d'elle, mais on aime Carmen, même si les chaisières la jugeaient scandaleuse et immorale. Mais vive la liberté et son programme, et rien ne peut l'en détourner. Tous les autres personnages, même le toréador Escamillo qu'elle aime pour le moment, paraît juste un peu fat, malgré son talent dans l'arène. Nous écoutons l'air d'Escamillo chanté par José Vanda.
Tout d'un coup, on fait silence, on fait silence. Ah, que se passe-t-il ? Plus de cris à l'instant, plus de cris à l'instant. Le tonneau s'élance en bolissant.
Dans un registre encore différent, on évoquera la jeune femme qui a inspiré Mimi, l'héroïne de la bohème. L'écrivain Henri Murger était tombé amoureux d'une jeune grisette, Lucille Louvet, qui meurt prématurément de la tuberculose qui a été foudroyante compte tenu des conditions de vie misérables qui étaient les siennes. Il raconte le drame de la jeune femme qu'il appelle Mimi dans un récit intitulé « Scène de la vie de Bohème » paru en 1851. Giuseppe Giacosa et Luigi Illica s'en inspireront pour écrire le livret de l'opéra de Giacomo Puccini, « La Bohème ». Celui-ci est créé en 1896. Partageant la dèche de ses amis poètes sans le sou qui vivent d'expédients hasardeux, elle vit des moments de bonheur avant que le drame se glisse dans leur vie. On écoute Anna Neprebko chanter « Quando man vo soletta ». Puis nous entendons le final, la mort de Mimi.